chers auditeurs de Radio Grand Ciel. J'ai l'extrême plaisir de souhaiter la bienvenue dans le studio à Catherine Vincent, qui est une spécialiste du Moyen-Âge, de l'histoire médiévale. Et Madame Vincent a écrit plusieurs ouvrages, mais il y a un livre qui est absolument magnifique, Fiat Lux, Lumière et luminaire dans la vie religieuse, un ouvrage qui nous donne un aperçu sur l'importance de la lumière au Moyen-Âge et surtout tous les aspects matériels aussi. Comment est-ce qu'on obtenait une lumière satisfaisante, surtout dans les églises, je crois. Donc, bonjour, chère Madame Vincent. Comment est-ce que vous présenteriez vos recherches sur la lumière ?
Alors, elles sont effectivement, comme vous l'avez bien présenté, des recherches qui sont parties d'abord de l'expérience de mes sources de l'histoire médiévale, où je me suis rendu compte que les hommes et les femmes de cette société, en tout cas de la période des 13e, 15e siècles, attachaient une grande importance à toute une série de signes lumineux qu'ils mettaient en œuvre dans des circonstances très variées de l'existence, depuis l'administration de certains sacrements, mais aussi dans des circonstances plus quotidiennes et également jusqu'à la fin de leur vie, lors notamment des funérailles où l'on ne concevait pas cette cérémonie sans la présence d'une petite flamme, qu'elle soit parfois plus importante pour les gens les plus puissants, moins pour les autres. Et donc je me suis interrogée sur finalement le sens de cet intérêt pour la lumière, sachant par ailleurs que la culture savante du Moyen-Âge avait tout un discours très particulier sur la lumière, et je me suis demandé, c'est un peu l'aventure de cette recherche, dans quelle mesure on ne pouvait pas faire le lien et trouver dans ce signe qui est celui d'une expérience très quotidienne que chacun partage, un moyen justement de trouver un passage d'une culture savante à une culture plus largement partagée.
C'est vrai que nous avons l'habitude aujourd'hui avec la lumière artificielle d'avoir de la lumière à n'importe quel moment de la journée, mais pour l'homme du Moyen-Âge où il n'y avait pas l'électricité, c'était quand même un souci effectivement quand le soleil avait disparu.
Et
on se trouvait dans les ténèbres.
Tout
donc,
à fait.
Par quel moyen obtenait-on cette lumière dans la liturgie? Je crois que vous mettez l'accent aussi sur l'importance de la hiérarchisation dans la liturgie grâce à la lumière.
Alors on peut peut-être commencer par la première question que vous venez de me poser, c'est-à-dire cette relation à la lumière à un moment où effectivement nous n'avons pas la fée électricité, et je dois dire que quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis dit qu'il fallait faire cette forme de conversion mentale, de se dire attention, on est dans une culture où finalement la lumière n'est pas du tout telle qu'elle est pour nous maintenant, obtenue si facilement en pressant sur un bouton. Et donc, effectivement, obtenir une lumière, disons, artificielle, en dehors de celle que fournit le soleil, était un problème, une difficulté, et peut-être aussi, et peut-être avant tout, un coût. C'est quelque chose qui coûtait cher. Les maisons n'étaient pas très éclairées, puisqu'on cherchait aussi à se protéger pour avoir à maintenir, enfin on le voit bien maintenant finalement, un chauffage qui soit quand même à peu près correct. Et donc on obtenait de la lumière par la combustion de différents matériaux, que ce soit de l'huile dans des petites lampes, souvent en verre, très modestes, dont quelques éléments nous sont parvenus, mais assez rarement, plutôt des représentations iconographiques. Et puis on l'obtenait aussi par la combustion de matériaux plus solides, du suif le plus couramment, mais le suif présentait l'inconvénient, nous disent les textes, d'être très malodorant et de dégager une fumée très charbonneuse. Et puis on obtenait aussi la lumière en brûlant des huiles plus fines, comme l'huile de noix ou l'huile d'olive. Et puis évidemment, il y avait le feu quotidien, hein, le feu des foyers ou du foyer. Je crois qu'on ne les multipliait pas, ces feux. On a toujours, j'en profite pour dire ça, une image terrible de ces monastères qui étaient peu chauffés, où il y avait juste une pièce appelée le chauffoir. Mais je crois qu'il faut se dire que dans les châteaux, on était guère mieux lotis. Il y avait quelques rares pièces avec des cheminées. Alors ensuite, effectivement, cette lumière, elle est aussi très présente dans la liturgie, dans la vie des églises, et là, je dirais, c'est un peu à un autre niveau, même si on utilise des braises pour se chauffer les mains quand on célèbre pendant l'hiver, par exemple, mais elle est utilisée pour exprimer bien autre chose, mais justement, le fait lien qui peut s'établir avec l'expérience quotidienne me paraît donner justement au message qui passe par cette lumière une facilité de compréhension qui était très largement utilisée par les prédicateurs notamment.
Donc pour des fêtes plus importantes, un plus grand renfort de cierges.
Débauche de lumière, oui. Ça a été une des choses qui m'a frappée en regardant les documents de presse et de constater que les jours ordinaires, y compris les dimanches, on allume quelques petites lumières autour de l'autel, mais sans plus, alors que pour les grandes fêtes, et notamment pour Noël et plus encore pour Pâques, on inonde vraiment l'église de lumière. Et il faut évidemment mettre ça en relation aussi, et à Chartres maintenant, je crois qu'on va pouvoir très bien le comprendre, avec les reflets de cette lumière à l'intérieur de l'édifice, d'un édifice qui n'a pas seulement les vitraux ou les murs colorés que l'on connaît, mais aussi tout un ensemble d'objets liturgiques qui sont propres à réfléchir la lumière, les chandeliers et autres supports de luminaires, mais aussi les châsses, hein, tous ces éléments d'orfèvrerie je trouve, partent exactement de la même esthétique finalement que l'architecture et notamment que l'architecture gothique.
Et
qui réfléchissait la lumière. Donc c'est quelque chose qui permettait, je dirais, d'avoir un éclat maximum à certains moments. Et cela, je pense, introduisait dans l'esprit évidemment des praticiens de la liturgie d'abord, mais aussi des fidèles qui étaient associés à ces célébrations, toute une hiérarchie du temps, avec les moments plus lumineux et des moments, au contraire, plus sombres, qui pouvaient correspondre justement à ces temps de pénitence, de retour sur soi.
Il me semble avoir lu effectivement qu'à Chartres, on suspendait certaines pièces du trésor à la perche, cette grande poutre qui traversait le cœur. Donc on n'hésitait pas à rajouter à cet éclat, comme vous le dites, en démultipliant les point où la lumière pouvait s'accrocher et être réfléchie.
Il y avait énormément d'éléments mobiles de support de luminaire, alors qu'ils pouvaient être placés devant des lieux où les fidèles allaient prier, faire des offrandes ou autres, mais qui pouvaient être aussi effectivement concentrés dans certaines parties de l'édifice en fonction des célébrations. Et bien entendu, là, tout le monde l'attend, je pense, le chœur liturgique était un lieu particulièrement éclairé avec des mécanismes, j'allais dire, de couronne lumineuse par cercle concentrique jusqu'à l'autel, si vous voulez, avec des luminaires qui étaient placés sur des petites suspensions fixées aux piliers, des luminaires placés sur des grands chandeliers tout autour de l'autel, des luminaires placés sur l'autel, et enfin, je trouve quelque chose qui m'a beaucoup passionné quand je l'ai découvert. Vous savez que la liturgie au Moyen-Âge, à partir du début du XIIIe siècle, a introduit ce geste particulier de l'élévation de l'hostie après la consécration. Et ce geste a été d'emblée accompagné d'un signal lumineux. C'est-à-dire que lors de l'élévation, on accompagne le geste du prêtre, sans doute un des acolytes ou un des petits clercs qui assiste à la cérémonie, de l'allumage d'une torche spéciale qu'on appelle la torche à lever Dieu.
Catherine Vincent, vous enseignez l'histoire médiévale à l'université Nanterre à Paris. Vous avez édité de nombreux ouvrages, dans un magistral ouvrage sur tout ce qu'il faut savoir sur la lumière, les luminaires dans la vie religieuse du 13e au début du 16e siècle. Vous nous parliez de la petite élévation qui, au moment où l'hostie va être élevée, va être soulignée par les cierges qui vont être élevés. La production de cire donnait sans doute naissance à une multitude de métiers spéciaux.
Oui.
Les ciriers.
Tout à fait. Et je pense que c'est un secteur qui est encore très méconnu et qu'il y avait effectivement toute une économie de la production aussi bien de l'huile que de la cire parce que ces églises étaient de très grosses consommatrices. Et j'expliquais tout à l'heure que c'était un coût très élevé. Or, on a des traces documentaires très précises, des dons parfois très importants, très significatifs, qui étaient faits par les souverains, à commencer par l'empereur Charlemagne, qui dira quelque chose à tout le monde, pour contribuer au luminaire, au coût du luminaire, enfin à l'achat du luminaire des églises ou des grandes abbayes. En effet, la liturgie avait fixé par référence plus ou moins à des précédents de l'Ancien Testament et aussi tout simplement, je crois, pour des raisons pratiques, l'obligation de n'éclairer les églises qu'avec deux types de combustible particulier. Alors, soit de l'huile d'olive, sans doute parce qu'elle était la plus pure de ces huiles, encore qu'on voit bien dans certaines régions qu'on utilise de l'huile de noix, parce que bon, il faut faire quand même avec ce que l'on a sous la main. Et puis de la cire d'abeille, et alors à la cire d'abeille s'attache toute une symbolique qui est héritée du discours naturaliste de l'Antiquité classique. En effet, on était convaincu à l'époque antique et encore au Moyen-Âge que les abeilles se reproduisaient sans commettre d'actes sexuels, donc d'une manière totalement pure. Donc la sécrétion des abeilles était, si vous voulez, assimilée au fond à une sécrétion virginale, et donc on voit très bien comment la symbolique chrétienne a pu s'emparer de ce discours et voir dans la cire quelque chose qui était un peu une sorte de préfiguration de la naissance virginale du Christ.
Vous avez eu l'occasion d'étudier donc des documents qui rapportent les donations de luminaires ou des petites lampes à huile. On voit dans les vitraux de la cathédrale de Chartres souvent la présence de ces petites lampes.
Oui, tout à fait. Oui, elles sont très familières dans l'iconographie médiévale. On les voit aussi dans dès qu'on cherche à représenter, par exemple, l'Apocalypse, dans la belle tapisserie d'Angers que vous devez peut-être avoir en tête. On voit également ces lampes qui sont suspendues, bon, qui font penser aussi aux lampes qui étaient suspendues dans le temple de Jérusalem. Enfin, donc on a ces petites lampes en verre qui sont malheureusement peu conservées parce que c'était des objets extrêmement fragiles. Et j'ai eu l'impression, en regardant la documentation, que l'on a de plus en plus préféré des luminaires en cire. Alors, est-ce pour des raisons économiques? Est-ce pour des raisons aussi pratiques? Et on avait, sans vouloir faire de jeu de mots facile, toute une économie, j'allais dire des bouts de chandelle, j'ai utilisé un peu le terme dans mon ouvrage, pour montrer comment rien n'était perdu. Donc on laissait brûler ces cierges jusqu'à une certaine hauteur, et ensuite on récupérait les éléments pour les refondre et refabriquer. Donc il y a, vous avez raison, là, toute une activité et tout un milieu en fait, de gens modestes qui devaient graviter autour des églises pour en assurer l'entretien matériel et qui devaient être assez largement absorbés par l'entretien de tous ces objets, de tous ces supports de lumière.
Parce qu'aujourd'hui, nous avons des petites lampes discrètes qui pendent du plafond, qui donnent une belle luminosité, mais pour avoir le même éclairage au Moyen-Âge, il fallait mettre en œuvre de très grandes couronnes de lumière où il y avait peut-être des dizaines, voire des centaines de cierges.
Oui, ce type d'objet effectivement existe et a été là, un peu mieux conservé que les petites lampes en verre qui sont très fragiles. Mais je crois aussi qu'il faut imaginer ces églises médiévales avec des foyers lumineux beaucoup plus nombreux que de nos jours. Dans la mesure où dès qu'il y a, on le voit à Chartres par exemple avec Notre-Dame du Pilier, bon, un objet de dévotion, il est entouré de ce halo lumineux qui est une manière de marquer sa reconnaissance mais aussi sa gloire, et je pense que toutes ces offrandes très modestes y contribuaient. Donc il y en avait autour de ces objets de culte, autour des peut-être des reliques aussi quand elles étaient présentées, autour des autels évidemment où l'on célébrait, et très souvent les donateurs, lorsqu'ils fondaient des services funéraires en leur mémoire, demandaient aussi que l'on allume à cette occasion un cierge ou une lampe sur leur sépulture. Or, comme on sait qu'il existait encore de nombreuses sépultures à l'intérieur des églises, vous aviez là aussi des petits foyers lumineux. Alors, évidemment, d'une manière très, très évolutive au cours de l'année ou au cours de la journée. Mais je pense que c'était ce geste de l'offrande d'une petite chandelle était un geste certainement très familier, ce dont on a la preuve par l'existence de tout un commerce. Vous parliez des métiers tout à l'heure, on a des règlements des métiers de cirier pour le Moyen-Âge qui nous expliquent toute la gamme de la production, qui pouvait aller de toutes petites chandelles jusqu'à des très grosses colonnes de cire qui pouvaient faire plusieurs dizaines de kilos et qui étaient offertes par des personnalités souvent personnalisées aux armes du donateur, donc qui contribuaient aussi à maintenir sa mémoire et son prestige à l'intérieur de l'église. Et ce commerce de petits cierges était assuré souvent par des femmes, on les appelait les chandelières, et elles étaient soit aux portes des églises, soit même à l'intérieur, et parfois chassées par le clergé qui trouvait qu'elles s'adonnaient là à un commerce indigne de l'intérieur de l'église.
Pensons au cierge pascal qui était souvent peint. Est-ce qu'on sait qui peignait le cierge pascal, ou est-ce qu'au Moyen-Âge on prenait les cierges tels qu'ils étaient sans
décoration? Ah non, vous avez raison de parler du décor et des peintures qui pouvaient être apposées sur les cierges, ou alors parfois également des petits objets modestes mais qui étaient suspendus au cierge pascal, un peu comme des petites enseignes de pèlerinage ou des petits objets de laiton qui étaient aux armes précisément des donateurs. Et dans certaines abbayes, le cierge pascal était également muni d'une sorte de pancarte sur laquelle étaient fixées, inscrites plus exactement, les dates des grandes fêtes liturgiques de l'année, notamment des fêtes mobiles, vous voyez, qui changent chaque année. Donc il y a là un lien symbolique que je trouve très intéressant entre le temps qui s'écoule et finalement celui qui est le maître du temps et qui est représenté par le cierge pascal. Et je me suis aussi rendu compte, en regardant un peu toutes ces comptabilités également de paroisse, que les membres des communautés paroissiales semblaient très attachés à la présence de ce cierge pascal, qui était un peu comme comme un symbole un peu identitaire. Et j'avais notamment été très marquée par une demande explicite de paroissiens d'une commune du sud du diocèse de Paris, la Bruyères-le-Châtel, pour ne pas la nommer, où l'on demandait explicitement que le cierge pascal soit allumé lors des funérailles des chefs de feu, des chefs de famille, si vous voulez, de la communauté. Je trouvais que c'était très intéressant, là encore, comme compréhension, finalement, de la symbolique de cette lumière du cierge pascal qui doit continuer à brûler au moment de l'inhumation.
Donc l'importance du cierge pascal, mais l'importance des processions aux torches et aux flambeaux.
Oui, bien sûr. Et alors là, toutes sortes de processions. Alors, la plus célèbre d'entre elles, et là encore, je crois qu'il faut se replonger dans un monde qui est un peu différent d'une autre, c'était la procession de la Chandeleur. Une fête qui semblait avoir à l'époque, si j'en crois la documentation, une importance beaucoup plus grande qu'elle ne l'a de nos jours, et où les fidèles étaient très attachés à participer à la cérémonie qui était, la messe était précédée à ce moment-là par une procession avec des luminaires, et il est manifeste que ces luminaires qui étaient, me semble-t-il, dans les débuts de l'instauration de la cérémonie, restitués aux églises, ont été de plus en plus conservés par les fidèles, clercs et laïcs, hein, aussi bien là, il n'y a pas de distinction à faire, car ils étaient l'objet d'une bénédiction, s'attachait à eux toute une valeur de protection, hein, au point que je pense qu'on plaçait, je crois pouvoir dire en toute certitude, qu'à la fin du Moyen-Âge, on plaçait le cierge de la Chandeleur entre les mains du mourant quand on arrivait à encadrer son agonie.
Amen.
Je suis avec Catherine Vincent de l'Université Paris-Nanterre et Madame Vincent venait de nous dire qu'on avait pris l'habitude, après les processions de la Chandeleur, de garder les cierges bénis et puis de les placer à un moment donné dans les mains des malades, mais aussi dans les mains des agonisants. Et peut-être vous pouvez développer le sujet en parlant de la chapelle ardente, la lumière, là, au moment de la mort, deviendra d'autant plus importante que l'on a la question de où vais-je ?
Bien sûr. Alors, pour finir sur le cierge de la Chandeleur, je pourrais juste rajouter qu'effectivement, je crois qu'on lui a donné, et on a des preuves de cela, y compris dans des bénédictions, dans les textes des bénédictions et dans des sources liturgiques qui émanent des autorités religieuses, on lui a donné une véritable valeur de protection, y compris contre les intempéries, contre les tempêtes. Et je crois que c'est quelque chose qui est resté encore très vivant jusqu'à une période assez récente dans les pratiques de l'Europe occidentale. Alors effectivement, cette lumière, elle entoure non seulement le mourant, mais aussi la dépouille mortelle du défunt. Et je le disais, je crois, en introduction de cette émission, on imagine mal d'organiser une cérémonie funéraire à l'époque sans qu'il y ait, parmi les différents éléments du culte, hein, mais un élément de lumière. Pour des raisons qui sont complexes, je crois qu'il y a toute une série de sens qui s'y attachent, mais certainement celui d'une préfiguration de la lumière éternelle. Je crois que bon, le monde céleste, la Jérusalem céleste est imaginée comme une cité radieuse éclatante et le paradis est un monde de lumière. D'une lumière qui dure toujours. C'est aussi différent de notre alternance du jour et de la nuit, qui est aussi quelque chose de profondément ancré dans le rythme humain. On ne vivrait pas tout le temps dans la lumière. Bon, là, on passe dans une autre forme de vie. Et donc, il faut qu'il y ait un peu de lumière pour apporter, je pense, ce message d'espérance pour ceux qui survivent, bien entendu, tout d'abord. Et on le voit dans la préoccupation de toutes, je dirais, les communautés religieuses, les communautés paroissiales, mais aussi les fidèles eux-mêmes qui organisent leurs funérailles, de veiller à ce qu'il y ait une cérémonie décente. C'est une préoccupation commune à tous à l'époque médiévale, et dans cette cérémonie décente, qu'il y ait de la lumière. Et pour retrouver le fil du cierge pascal, si je puis dire, qu'on évoquait tout à l'heure, j'avais là aussi trouvé tout à fait intéressant et suggestif cette disposition de paroisses anglaises qui utilisaient les restes du cierge pascal, puisque c'est souvent très volumineux et que la combustion n'arrive pas à la fin en l'espace de l'année, pour précisément refondre et faire des petits cierges qui soient utilisés pour les funérailles des pauvres. Alors on trouve également ce souci de pourvoir aux luminaires des pauvres de la part de quelques puissants. Alors quant aux puissants eux-mêmes, qui en général organisent leurs funérailles par des dispositions testamentaires, ils n'hésitent pas à mettre autour de leur dépouille mortelle une débauche de lumière, et notamment, alors pour les plus puissants et notamment les rois, ça prend la forme de ce qu'on appelle une chapelle ardente, c'est-à-dire une construction de bois, une sorte de petite chapelle intérieure qui est placée au-dessus de la dépouille mortelle, pourvu de toute une série de foyers lumineux et qui devait entretenir et dégager dans l'église une chaleur considérable, puisque l'on sait par ailleurs que quand la cérémonie avait lieu dans des églises relativement modestes de taille, on en est arrivé à enlever les vitraux pour éviter l'explosion. Tellement, je pense, si vous voulez, il y avait un dégagement de chaleur qui risquait d'abord de provoquer des malaises, on en a des traces aussi dans la documentation, mais aussi d'arriver, de provoquer des accidents.
Donc ceci de créer un maximum de lumière au moment de la mort, au moment de très grandes fêtes, et aussi la symbolique de la lumière était utilisée pour s'acheminer vers les ténèbres. Nous parlons des ténèbres, c'est cet office liturgique pendant le Triduum pascal.
Oui,
vous en parlez dans votre livre.
Oui, bien sûr. Et là, il y avait effectivement un rituel qui a été très bien codifié, je dirais, par la liturgie et qui est très très éloquent avec cette extinction successive des, mais qui, je, enfin, extinction successive des lumières avant l'allumage du feu nouveau et du cierge pascal lors de la veillée. Il faut peut-être relativiser la portée de cette cérémonie qui était sans doute davantage célébrée dans les milieux monastiques ou peut-être aussi les chapitres cathédraux, mais à laquelle je ne suis pas sûre que les fidèles se joignaient aussi régulièrement qu'on pourrait le croire. Mais pour en revenir au cierge des funérailles, il est très clair que là, outre la symbolique religieuse qui s'attache donc à cette lumière qui préfigure la lumière destinée aux élus, il y a une dimension incontestablement de prestige social qui s'attache à la multiplication de ces sources de lumière autour de la dépouille. Et ça n'est pas pour rien que ces chapelles ardentes ou ces grandes processions avec des torches très nombreuses étaient plutôt, je dirais, le fait des très grands du duc de Bourgogne à la fin du Moyen-Âge ou des rois de France, avec un crescendo, là, vraiment une augmentation de la débauche de lumière qui est tout à fait manifeste à la fin du Moyen-Âge.
Beaucoup de lumière aussi en signe d'honneur pour le Saint-Sacrement. Comment vous le rappelez également dans un chapitre consacré à l'Eucharistie. Il me semble que vous avez écrit aussi sur les confréries au Moyen-Âge. Et il me semble que Régine Pernoud l'a rappelé, que les toutes premières confréries se sont placées sous le signe de l'Eucharistie. Qu'il y avait le Saint-Sacrement qui réunissait peut-être d'abord un peu ses corps de métier.
Alors, il y a eu effectivement une explosion des confréries du Saint-Sacrement à partir du moment où la dévotion s'est fortement orientée en direction donc de des espèces eucharistiques et notamment du Corpus Christi, ce qui va donner la fête Dieu ensuite, qui est quand même encore pratiquée très, très longtemps sous l'Ancien Régime. Je pense qu'il y a eu avant les confréries du Saint-Sacrement d'autres confréries aussi, et toutes ces associations, c'est un peu elles qui m'ont mise sur la voie de ce travail sur la lumière, car je me suis rendu compte qu'elles utilisaient une grande partie de leurs ressources à acheter les luminaires nécessaires à la célébration du culte, et aussi qu'elles utilisaient souvent ces lumières pour tout un discours symbolique. Ces cierges étaient censés représenter devant le saint patron présence permanente en quelque sorte des confrères lors de la journée de fête, mais aussi parfois plus longuement, où l'on avait un nombre de cierges qui étaient rattachés à la dévotion particulière de la confrérie. Les confréries mariales, par exemple, vont avoir un luminaire qui est marqué par les dévotions des 15 joies de la Vierge ou de tel ou tel mystère. Et alors, effectivement, les confréries du Saint-Sacrement vont, elles aussi, alors, s'attacher, en fait, non seulement au luminaire de la fête du Saint-Sacrement qui apparaît à la fin du Moyen-Âge, au XIIIe siècle, mais aussi à financer une chose qui est familière maintenant dans les églises, mais qui apparaît précisément à ce moment-là, qui est la fameuse veilleuse que l'on place devant la réserve eucharistique. Et on a je pense qu'à l'origine, la majorité des confréries du Saint-Sacrement ont été fondées dans la perspective de financer cette lampe permanente qui était là pour polariser là aussi le regard à l'intérieur de l'Église vers ce lieu de la présence divine.
Donc au Moyen-Âge, on n'aurait peut-être pas donc offert pour un mort ou pour le défunt des fleurs, plutôt des cierges.
Oui, vous avez raison. Effectivement.
Ça pourrait nous donner des idées. Je crois qu'on renoue un peu dans des enterrements aujourd'hui avec cette très vieille tradition de placer des cierges autour du cercueil, signe de l'espoir de la résurrection.
Voilà.
Il faut toujours effectivement se rattacher à cette tradition ancienne. Je vois que l'heure passe très vite. Alors, vous dites que la lumière le cierge, c'est aussi un élément de distinction sociale dans la mort. C'est ce que vous avez souligné à travers toutes ces traditions, cette débauche de lumière pour des personnages importants. C'est aussi un support de piété, piété mariale.
Je crois que une de mes collègues avait écrit avant moi que cette offrande de petites chandelles dans les églises est le geste élémentaire de la piété, et je crois que c'est tout à fait vrai. Enfin, je pense qu'on pourrait faire le parallèle peut-être avec des choses qu'on observe, si vos auditeurs ont eu l'occasion d'y aller, dans les régions chrétienne d'Orient, du monde orthodoxe ou des églises d'Orient, où on a conservé cette familiarité d'un dialogue avec les saints ou avec le Christ ou la Vierge par l'intermédiaire de ces petites chandelles qu'on achète à l'entrée de l'église et qu'on distribue, j'ai eu l'occasion de l'observer moi-même, qu'on distribue devant tel ou tel saint tout en en formulant une prière devant lui.
Dans les cimetières en Allemagne, on pose au moment de la Toussaint également des petites lumières.
Exactement.
Dans les régions côtières, quand un marin a disparu, on Absolument. Place une lumière dans la fenêtre dans l'espoir de le voir revenir.
Et... Tout à fait. Oui, il y a un jeu de substitution, finalement, entre cette flamme allumée et la personne qui l'a déposée ou la personne pour laquelle on l'a déposée. Là, il y a des éléments indubitables en ce sens.
L'heure a tourné très vite. Je vous remercie beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. C'était un grand plaisir de partager
pour nous
cette recherche avec
que
vous.
Que nos éditeurs ont partagé. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir, chers auditeurs de Radio Mont-Ciel.